Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, et que tu nous encourages, Seigneur, que tu nous fortifies. Merci, Seigneur, parce que nous sommes aujourd'hui dans ta maison. Nous sommes ta demeure, l'Église, le corps du Christ. C'est le temple du Seigneur. Car tu n'habites pas dans ce qui est fait de main d'homme, mais tu habites dans ce que toi tu as fait de tes mains. Et je prie, Seigneur, que beaucoup, tu amènes beaucoup, Seigneur, de personnes qui puissent venir dans ta maison et se réjouir de ta présence, de connaître véritablement le vrai bonheur en ta présence. Que tu sois glorifié, Père. Au nom de Jésus, amen. Pardon. Alors, j'ai intitulé le message « La mission intérieure ». Donc, parce qu'il y a deux missions, il y a la mission que l'Église connaît, la mission extérieure, où il faut annoncer l'Évangile, où il faut témoigner, où il faut faire des disciples, où il faut que la lumière brille. Mais pour cela, il faut aussi réussir la mission intérieure. Parce qu'on sait très bien que sans Jésus, on ne peut rien faire. J'ai eu à cœur de commencer l'année 2012 avec 2 Corinthiens, en étudiant 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 11 à 18, et 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Afin que l'Église reste vigilante au retour de Christ, afin de garder la sainteté, la pureté, et la présence du Père. Pour être la lumière du monde, bien sûr dans l'obéissance aux Écritures. Parce que sans Jésus, on ne peut pas rayonner. Si on n'a pas cette relation riche et profonde avec le Seigneur, on ne peut pas rayonner. Donc je vais lire ce passage. Donc chapitre 6 au verset 11. Jusqu'au verset 18 et chapitre 16, verset 1. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants. Montrez-vous large, vous aussi. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélia? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. J'étais interpellé par ce passage parce que, comme nous sommes le temple du Dieu vivant, quand on va chez quelqu'un, en général, dans la politesse, si on est bien élevé, on sait très bien qu'avant de rentrer dans sa maison, on va d'abord essuyer ses pieds sur le tapis. Et le Seigneur m'a fait comprendre aussi qu'il y a une attitude aussi à avoir devant sa sainteté quand on se présente devant lui. Et donc, Bon, il m'a montré le passage pour montrer les conditions liées à sa présence. Bon, tout le monde connaît ce passage, tout le monde très bien. Et le Seigneur, Paul, il parlait à l'église de Corinthe, parce qu'il y avait quelques problèmes dans l'église de Corinthe. Tout n'est pas rose, mais Dieu nous aime. Ça, c'est ce qui ne change pas. Mais Dieu est un Dieu exigeant, est un Dieu trois fois saint. Et je comprends pourquoi le peuple juif avait quand même, malgré ce qu'il était dans son histoire, pour les juifs, le temple était sacré. C'est quelque chose de sacré, profond dans leur cœur. Vraiment quelque chose de sacré. Même s'ils ont toujours eu l'attitude qu'il fallait, mais ils avaient un profond respect. Et Dieu prend plaisir à ça. Parce que Dieu, il veut avoir tous ses enfants autour de lui comme un père, comme une famille. C'est que Dieu ne fait pas de compromis, ça n'existe pas. Au royaume, ça n'existe pas. Peut-être sur terre, mais pas au royaume. Pas dans le temple du Seigneur. Alors on va voir en trois parties. La première partie, comme Paul il mentionne à l'Église, il dit, il rappelle de ne pas former, donc j'ai retenu les mots, il y a le mot former, il y a le mot communion, il y a le mot association, il y a le mot accord et il y a alliance. Et donc c'est pour nous protéger, c'est pas dans un esprit de jugement, mais c'est parce que Dieu veut protéger son peuple, parce que le Seigneur veut bénir son peuple. Il veut le préserver du mal. Ça, c'est l'amour d'un père. Quand on a des enfants, on sait qu'on va donner ce qui est le meilleur pour nos enfants. Donc c'est ce que Dieu fait envers l'Église. C'est ce que l'Église doit comprendre aujourd'hui. Parce que le risque, si on ne fait pas attention, si on n'est pas vigilant, on doit aller vers le monde, mais on ne doit pas suivre le monde. On doit réclamer notre identité. On doit revendiquer sa différence. Revendiquer sa différence. Alors, dans Nombre, chapitre 33, en Nombre chapitre 33. Nombre chapitre 33 au verset 55. C'était au moment où Israël devait acquérir la terre promise. Mais si vous ne dépossédez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des échardes dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos adversaires dans le pays où vous allez vous établir. Le danger des compromis dans la société, c'est que ça aveugle l'Église, c'est que ça aveugle la clairvoyance. Malheureusement, le Seigneur connaît ses enfants et il nous met en garde de faire très attention. On doit aller vers le monde, mais on ne doit pas suivre le monde. On doit aimer son prochain. On doit aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est ne pas être complice des agissements du monde. On peut avoir des amis dans la société, au travail, comme Jésus était au milieu des gens de mauvaise vie, mais jamais Jésus a suivi les gens de mauvaise vie. Il leur a annoncé l'Évangile, mais il n'a jamais été en communion, il n'a jamais fait d'association. Donc je pense que le Seigneur aussi, c'est très important, parce que bon, je m'étonne que des fois, beaucoup de frères soient un peu brouillés dans leur cœur et dans leur esprit, et ils ne savent plus où ils en sont. Et ça fait de la peine au Seigneur. Lui qui est la lumière du monde, comment peut-on être encore dans les ténèbres alors qu'il est la lumière du monde? Dans la deuxième partie, Paul y rappelle que nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu nous rappelle qu'il habite au milieu de nous, qu'il marche au milieu de nous. Il est notre Dieu, nous sommes son peuple. Mais il nous dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai dans ma présence. Là, il parle d'accueil. Alors, quand j'ai prié il y a 15 jours, du lundi, j'étais en train de prier avec Sylvie pour l'église, tout ça, et j'avais eu à l'esprit un peu cette image d'un homme qui était sur le coin du temple en train de regarder. Et puis, je pensais au temple, donc je me suis dit, tiens, je pense au temple, je pense au passage de Jésus, quand il va au temple. Et là, le Seigneur, je commence à lire le passage, et puis je tombe sur Marc, chapitre 11, au verset 11. Donc je vais prendre Marc, chapitre 11. Au verset 11. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Et là, le Seigneur il m'a dit, mais sois attentif au verset. J'avais jamais fait attention à ça. Avant que Jésus chasse les vendeurs du temple, il était venu au temple et il avait regardé tout ce qui se passait dans le temple. Il examinait. Ce qui veut dire que Jésus voit tout ce qui se passe dans l'Église. Il regarde. C'est son œuvre. C'est lui qui règne. On a chanté, il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le roi des rois. C'est sa demeure. C'est sa maison. Nous sommes ses hôtes, ses invités. Nous sommes sa famille, ses enfants, chéris et précieux à ses yeux. Mais il nous dit, je regarde. Il nous rappelle le temple. Il nous rappelle le temple. Et donc, j'ai eu aussi l'image assez forte de la relation de ses enfants avec Dieu et dans le temple surtout. Parce que le temple, c'est le lieu sacré, c'est le lieu le plus important dans la vie du disciple, la présence du Seigneur. Et j'avais cette image, cette lampe avec un petit vase d'huile à côté. Ça fait rappeler bien sûr la parabole des 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. La présence de Dieu, c'est sa gloire. L'huile, c'est son onction. C'est son onction. Et le Seigneur, pour pouvoir obtenir cette onction, il y a les critères du Seigneur. Le Seigneur ne va jamais transiger. Il nous aime, il nous pardonne, mais il ne faut jamais oublier que c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Il ne peut pas tronquer sa justice pour nous faire plaisir, pour faire plaisir à l'Église. Bon, si c'est un œuf, c'est rien, c'est pas trop grave. Si c'est un bœuf, attention, non. Le Seigneur n'est pas comme ça. Je pense que parfois, dans l'Église, on peut manquer de respect à la sainteté du Seigneur, à sa justice. C'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est une réalité. Parce qu'on est tous dans le même bateau. moi qui parle devant vous. Mais c'est l'amour du Père qui parle. L'amour du Père, c'est ça qu'il faut entendre. L'amour du Père. Alors j'ai eu aussi ce dans Luc, chapitre 1, verset 75. Là, c'est aussi interpellant. Lui rendre un culte dans la sainteté, la justice, en sa présence, tout au long de nos jours. Donc le culte personnel, bien sûr. Le culte en famille. Le corps du Christ, le temple. Et là, le Seigneur vraiment attire notre attention. On doit lui rendre un culte dans la sainteté et dans la justice. On dit que le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dieu aime la justice. Il veut voir la justice dans l'Église. Il veut voir la sainteté. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a dit « Je suis saint, vous serez saint, car je suis saint. » Hébreux, on va prendre Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ça m'a interpellé. Donc on voit qu'il y a quand même des conditions. On ne peut pas venir dans la maison du Seigneur en pensant que ça va changer comme ça. En pensant, on vient, il y a des conditions, c'est ce que j'avais dit, le tapis. C'est le Seigneur qui réclame les trois fois saints. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le voir bien sûr spirituellement. Alors c'est marrant, on parle de réveil, on parle de... que le Seigneur veut faire les choses, tout ça, c'est formidable. Mais il y a toujours des conditions. Dieu est un Dieu ordonné. Son Église doit être ordonnée. Il veut avoir ses enfants autour de lui dans la sanctification. Il rappelle à l'Église qu'elle doit se sanctifier vis-à-vis des valeurs du monde. C'est impératif. C'est impératif. C'est notre maison à tous. On doit la défendre, cette maison. Ce que j'ai aimé avec le peuple juif, c'est que quand les Romains ont voulu détruire le temple, ils se sont battus jusqu'au bout, au point même de fermer les portes du temple. Et s'il fallait mourir, ils sont morts à l'intérieur. Mais personne n'est rentré, sauf en détruisant le temple. Ils avaient un tel zèle pour le temple, la présence de Dieu. Alors, ce que le Seigneur nous demande, bien sûr, c'est de développer jusqu'à son terme la sainteté, en nous aidant, en nous exhortant les uns les autres, en nous encourageant à aller dans la présence de Dieu. Parce que c'est comme Moïse quand il est monté sur la montagne. Moïse a tourné autour du buisson pour regarder. Et puis le Seigneur lui dit, Moïse, il le calme un petit peu, arrête-toi. Et il dit, Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis il dit, Moïse, enlève tes sandales. Je t'aime, mais enlève tes sandales. Ici, tu es sur une terre sainte. Et l'église, c'est ça. C'est ça, l'église, le temple, c'est ça. Si la présence de Dieu y demeure, si on obéit aux Écritures, si on s'exhorte, bien sûr, ça ne viendra pas comme ça. Il y a un cheminement. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Il faut être large de cœur. Il ne faut pas résister. Parfois, il faut peut-être se faire même violence pour trouver la présence du Seigneur et recevoir son onction. Dans Actes chapitre 10, je vais prendre Actes et j'ai bientôt fini. Actes chapitre 10 au verset 35. Mais en toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice lui est agréable. Lui est agréable. Une crainte saine dans l'amour. Celui qui pratique la justice. Ça réjouit le cœur de Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu. Dieu pleure quand il voit ses enfants qu'ils ont un pied dans le monde et un pied dans l'église. Une âme partagée. Dieu veut tout. Il veut tout notre cœur. Et Dieu veut tout donner. Il veut tout donner. Alors, le Seigneur m'a montré aussi une autre image dans sa parole. Je ne pense pas qu'en s'asseyant, Dieu va venir nous servir sur un plateau. Il est notre serviteur. Oui, il nous apprend à être serviteur. Il a montré l'exemple. Mais je ne pense pas que Dieu va nous apporter tout sur un plateau. Et il a attiré mon attention sur une chose que j'avais jamais fait attention. Il m'a dit, regarde les deux aveugles. L'histoire des deux aveugles. Ils sont sur le long du chemin. Alors ils sont déjà dans un état terrible. Ils sont aveugles, ils ne voient rien du tout. Et ils entendent une foule qui arrive. Et c'est Jésus, bien sûr. Alors ils demandent, ils disent, mais c'est qui? Et les gens à côté, ils disent, ben, c'est Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent. Et il crie, fils de David, aie pitié de nous. Mais la foule, elle commence, le monde, écoute, tais-toi, ça ne sert à rien, il est trop loin, il y a du monde, ils font du bruit. Et il ne va pas t'entendre. Mais ils n'ont pas écouté. Ils se sont fait violence. Ils ont trouvé la présence du Seigneur. Et ils ont crié, fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus s'est retourné. Pourtant, ils étaient dans un état d'aveuglement. Hein. Et Jésus les accueille en sa présence et il dit, « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Et parfois, les choses sont tellement simples, on se laisse tellement brouiller par les choses du monde. Non, il faut revendiquer sa différence dans la société. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, moi, le Seigneur m'a interpellé dans mon lieu de travail. Je peux le témoigner. Dans mon lieu de travail, je m'entends bien avec tous mes collègues. Je ne les juge pas. Je suis là pour aimer mon prochain. Mais il m'a dit, attention, Jean-Luc, éloigne-toi de ce groupe. Sors de là. Ça vous est jamais arrivé? Quand vous êtes en présence des gens du monde, il y a une séparation. Parfois, vous vous sentez mal. Eh bien, là, c'est la frontière. Et des fois, le Saint-Esprit, je suis sûr que le Saint-Esprit vous a dit, mais sors de là, sépare-toi d'eux. C'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger. Et moi, le Seigneur, il m'a dit, tu vas sortir de ce groupe. Parce qu'ils ne sont pas à ma gloire, ces gens-là. Et je suis sorti. Je les vois comme des collègues, dans le respect, bonjour, au revoir, on discute du travail, mais ça s'arrête là. Sinon, si je reste, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des enfants du Seigneur qui ne se rendent pas compte qu'ils tentent le Seigneur. et leur arrive des catastrophes dans leur vie. Parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils ne prennent pas au sérieux, parce qu'ils n'honorent pas comme Dieu doit être honoré véritablement dans sa sainteté. Alors elle m'a dit, tu vois, ces deux aveugles, ils se sont fait violents. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors pour ceux qui n'ont pas encore accepté, je les invite à se faire violence. Mais pour l'Église aussi, il faut se faire violence pour entrer dans le Saint des Saints, pour être béni de la présence du Seigneur, afin de recevoir son onction de guérison, de délivrance. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Ça, il faut le reconnaître. Bon, voilà. C'est ce que j'avais à cœur pour l'année 2012, pour nous mettre en... Voilà, pour garder la lampe allumée. N'oubliez pas le petit vase d'huile. Parce que le petit vase d'huile va nous permettre d'aller de dimanche en dimanche. Et la vie de l'esprit, le culte, rend un culte au Seigneur. On sera rempli de son onction. Ce matin, on a été rempli de son onction. On est rempli de son onction. Et il faut en être conscient. Et il va falloir en redemander. C'est tellement bon. Il va falloir être gourmand. Je ne sais pas si on sera obèse, je ne pense pas qu'on arrivera, mais... mais voilà, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et Dieu, crois-moi, il nous le rendra au centuple. Amen.